de santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
On vous sert une assiette et ah, super, il y a tout ça à manger. Une seule personne, une seule amie, ça va être plus compliqué parce qu'on sait que le regard va être complètement sur notre assiette. Il y a eu un choc émotionnel à l'adolescence, que j'ai perdu mon meilleur ami. Comment, pourquoi, je sais pas. En tous les cas, j'ai commencé à plutôt manger beaucoup. Enfin voilà, manger beaucoup, à manger pour deux. Je veux dire, dans les toilettes, trois tablettes en cinq minutes, il n'y a pas de plaisir. Enfin, là-dessus, enfin moi, j'ai pas pris de plaisir en tous les cas. C'était vraiment engloutir. Je prenais pas de poids, donc ça allait. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai eu des comportements... c'est juste ingérable, c'était juste maintenant qu'il faut que je mange, quoi. Et arrivé devant l'assiette, ben, t'as super faim, alors vas-y, quoi.
Bienvenue à tous dans Enjeux de santé, l'émission dédiée à la prévention santé des jeunes adultes de Radio Campus Rennes. Cette semaine, nous avons accueilli Manuela dans les studios de la radio. Manuela est bénévole au sein de l'association Solidarité Anorexie Boulimie, laquelle s'est associée avec les pôles santé et sociale de Rennes 1 et Rennes 2 pour échanger autour de ces thématiques. Le 25 novembre, à 14h dans l'amphi B2, sur le campus de Rennes 2, l'association proposera témoignages, projections et discussions afin d'éclairer les différents aspects de l'anorexie et de la boulimie. Nous avons souhaité rencontrer Manuela car elle a elle-même une trajectoire de vie marquée par des troubles du comportement alimentaire. Elle nous a fait part de sa propre expérience, mais aussi de celles et ceux qui, tous les premiers samedis de chaque mois, fréquentent les locaux de l'association à l'Hôtel Dieu de Rennes.
Je ne prenais pas forcément beaucoup de poids, donc à la rigueur, je pouvais manger, mais par contre, je ne mangeais pas forcément à table. C'est la particularité, c'est que je ne mangeais pas forcément à table chez mes parents. Je mangeais même peu. Par contre, les tablettes de chocolat que j'achetais, je les mangeais dans les toilettes en 5 minutes. Enfin, c'est des choses, avec quand on prend du recul, je me dis c'est quelque chose, c'est quand même bizarre. Enfin, c'est quand même, ça interpelle en disant pourquoi je le mange pas face. Enfin, voilà, non, fallait que je me cache pour les manger sans aucun plaisir. Voilà, même si je prenais le chocolat que j'adorais, hein, c'était plutôt un mal-être que j'avais à ce moment-là. Qui était vraiment très, très, très lourd à porter. J'avais un deuil à faire et que je n'arrivais pas à faire. Et mes parents n'ont absolument pas vu. Parce que voilà, je me suis bien planquée quand même. Je ne prenais pas de poids, donc ça allait. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai eu des comportements. Par exemple, si je me promenais en ville, à partir du moment où j'avais décidé qu'il fallait que je mange, il fallait s'arrêter dans le premier truc qui était ouvert, quoi. Alors on va juste prendre ça, ça devrait aller, voilà. Bon voilà. Et c'est des choses comme ça qui se sont mises en place et où j'ai pas du tout, moi, je me suis pas du tout rendu compte que j'étais dans quelque chose de problématique. Ça, je me suis dit c'est une partie de ma personnalité. C'est comme ça, je mange comme ça. Et puis quand je m'ennuie, quand je suis dans la rue ou ça, j'ai besoin de manger, c'est maintenant, c'est normal, j'ai faim, j'y vais quoi. Sauf que je mangeais pas, mais voilà, c'était pas... Voilà. Et puis je suis rentrée à l'association Solidarité Anorexie Boulimie, comme bénévole.
D'accord.
Par hasard. C'est étonnant, mais comme il n'y a pas de hasard dans la vie, voilà, j'y suis rentrée par hasard. En me disant, ça m'intéresse, je vais aller faire du bénévolat là-bas. Et là, je me suis retrouvée devant une table avec plein de personnes qui parlaient de comportements qu'elles avaient. Et je me suis dit, ça me parle, quoi. Enfin, voilà... Voilà, le côté des peurs, le côté la relation à l'autre, le côté par rapport à l'alimentation. Moi, quand j'allais pas bien, j'ouvre le placard, je le vide. Mais soit je le vide en le mangeant, mais soit je le vide dans la poubelle. Le frigo, en 3 secondes, il peut être vidé dans la poubelle. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. C'est un comportement qui est là. J'ouvrais le frigo, j'étais hyper mal, je me sentais mal, je vide le frigo, je le mets dans la poubelle. Et mon mari rentrait en disant c'était périmé, tout était périmé. Voilà, il posait pas trop de questions, il disait c'est étonnant, mais bon voilà, j'ai oui tout est périmé, c'était plus bon, voilà, et je balançais. Donc Voilà, c'était des comportements comme ça et je me suis dit, ah mais je suis pas toute seule. Ah mais en fait c'est une problématique, enfin, c'est pas normal. Enfin, il y a un truc qui est pas... Qui... Voilà, bon, je suis allée en thérapie pour d'autres choses. Et là, effectivement, j'ai mis le doigt sur le fait que j'avais des troubles de comportement alimentaire.
D'accord.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ça...
Ça aurait pu passer en fait inaperçu.
Ça aurait pu passer inaperçu, n'empêche que ce que j'identifiais, c'était tout le mal-être qui était derrière, quoi.
Ça, vous en aviez conscience ?
Non, quand je mangeais, je ne me rendais pas compte à ce moment-là que c'est parce que j'allais pas bien, quoi. Enfin, il fallait que je mange, quoi. Il fallait que je me goinfre de quelque chose. Mm-hmm. Et un paquet de choco, chez moi, il faisait pas... Enfin, voilà, c'était tout de suite, en entier. J'en prenais un, je prenais tout. Et après, c'est après que je me suis dit, mais c'est vrai, je fais ça aussi. Par exemple, je suis chez une amie, elle ouvre un paquet de choco pour le goûter. Elle en mange un, moi j'en mange un. Et encore, c'est difficile. Enfin, voilà. En me disant, là, je ne peux pas me goinfrer tout le paquet de choco. Je n'en mange qu'un, voire un demi, voire pas du tout. Mm. Par contre, je m'en achète un et je l'engoue. Enfin, vraiment, je le prends ce soir à 23h dans ma chambre toute seule, mais pas face à elle. C'était des trucs comme ça qui étaient incohérents.
D'accord.
Je
ne
pouvais pas prendre du plaisir avec elle de manger un paquet de choco, enfin, même pas en entier, même deux chocos avec elle. Je ne prenais aucun plaisir. Je n'en prenais pas plus le soir à 23h dans ma chambre. Hein. Mais il y avait ce côté... Non mais ce soir par contre c'est bon, je vais pouvoir en manger. Et le soir à 23h je prends le paquet de choco et je l'engloutis.
Ouais.
Sans non plus aucun plaisir. Voilà. Et après en thérapie, voilà, j'ai travaillé beaucoup. Enfin oui, j'ai fait effectivement 5 ans de thérapie. Pas que sur ça, hein, sur plein d'autres choses. Voilà. Et du coup, à aujourd'hui, je suis. Le comportement, il est complètement différent. C'est-à-dire que je vois, en fait. C'est-à-dire que des fois, je me dis, je ne suis pas très bien. J'ouvre le placard, je fais, il ne me plaît pas comme ça. mais ce n'est pas grave. Je referme le placard et je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe là, chez toi, et pas dans ton placard ? Je ne reporte plus sur la nourriture un mal-être que je peux avoir à un moment précis. C'est-à-dire qu'il y a un moment T où on a tous des moments où ça colle pas, où ça va pas. Et c'est vrai qu'il y a aussi une particularité, c'est que j'en parlais lors d'une table ronde, moi je me suis complètement emmurée. C'est-à-dire que, enfin, j'étais dans une forteresse. Et ça, c'est aussi une particularité. On se met dans une forteresse. On n'a plus accès. Enfin, moi, je n'avais plus accès à mes émotions. Je n'avais plus accès à comment je me sentais. Je bloquais les autres. Il fallait pas qu'ils viennent non plus chez moi. Donc voilà, la relation était compliquée. Et en fait, je me suis dit, mais t'es dans un truc là. T'es dans une armure. Et il faut que t'en sortes, quoi. Enfin, c'est pas possible d'être. Voilà. Et donc, grâce à la thérapie et plein d'autres trucs que j'ai mis en place à côté, il y avait pas que la thérapie. J'ai fait beaucoup de scrapbooking, c'est un loisir créatif qui m'a permis d'aller chercher qui je suis, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe en moi. Il y a vraiment un travail de fond, parce que comme je disais tout à l'heure, le trouble du comportement alimentaire, c'est un symptôme de quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui est beaucoup plus douloureux. Et à la rigueur, c'était beaucoup plus simple d'aller me goinfrer. Enfin, aujourd'hui, je me dis, ouais, c'était plus simple. Alors, c'était plus dévastateur à l'intérieur, hein. Ça détruit vraiment l'intérieur de soi. Mais c'est un peu comme de l'urgence, quoi. Ça va faire que je vais aller mieux. Or, il faut aller vraiment au fond, chercher vraiment ce qu'il y a.
Il faut vraiment prendre le temps de déconstruire un peu toute la problématique sous-jacente, en fait, à tout ça.
Voilà.
Et avant de la déconstruire, vous inventiez des justifications pour vous dire « mais non, c'est normal ». Non, finalement, j'agis comme ça, c'est normal. Parce que vous me parliez tout à l'heure de déni, mais on se rend compte souvent dans certains comportements qu'on se trouve toujours des bonnes justifications.
Alors, le déni, il est tellement fort qu'il y a même pas de on se justifie même pas. Enfin, moi, dans mon cas, le déni était tellement là. Enfin, je ne voyais même pas, mais c'est quelque chose que je voyais mais absolument pas, qu'il n'y a même pas à justifier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme ça. Je suis gourmande. Voilà, je suis gourmande, mais je ne le partage pas. Voilà.
Ah oui, c'était votre définition de la gourmandise.
Ouais, je sais pas, je suis gourmande, mais je ne voyais même pas que ça pouvait être quelque chose de... C'est ça, en fait, c'est qu'on n'est même pas dans la... On ne justifie pas, parce que je ne voyais pas, en fait. le déni est vraiment quelque chose de récurrent, hein, vraiment. Et alors on dit que tant qu'on est dans le déni, c'est difficile d'en sortir. Et on discutait justement l'autre jour dans un des derniers groupes auxquels j'ai assisté, où il y avait une maman qui disait que sa fille était dans le déni. Elle est sortie du déni, elle a eu des soins, et là elle est re-rentrée dans un autre déni en fait. Enfin, un autre déni, je ne sais pas si ça se parle, ça se dit comme ça, mais c'est le côté un peu, je me cache derrière le côté, je suis anorexique, et voilà, et c'est encore autre chose, quoi. C'est un autre... elle dit, c'était bizarre, c'était vraiment particulier, parce qu'en fait, elle dit, oui, mais maintenant je mange comme ça, parce que, voilà, j'ai une problématique, et c'est ma façon de fonctionner, voilà, et c'est encore un autre déni. Enfin, c'était un peu bizarre, c'est... Il y a vraiment ce côté déni qui est particulier, parce que je pense que la personne est vraiment sincère. Enfin...
Quelqu'un qui est en mal d'identité, quelqu'un qui est en recherche d'identité, à qui on va parler d'anorexie, par exemple, eh bien, elle peut revêtir cette identité d'anorexique. Ça devient peu à peu. Voilà, je me présente, je suis une anorexique. Mais... présenté par eux, ça vient comme une identité, c'est presque identitaire, presque une prothèse.
Enfin, ça se voit. Donc j'existe par un mal-être, mais mal-être dans l'assiette.
Jusqu'où ça peut aller tout ça en fait ? Jusqu'où cette spirale peut aller finalement dans les comportements ? Parce que finalement, l'anorexie, on le rappelle peut-être pas assez, mais ça peut conduire peut-être jusqu'à...
Jusqu'à la mort. C'est une pathologie qui est très grave. Hein. Très grave, ça peut... effectivement, ça peut entraîner la mort. Alors, il disait... Enfin, dans les textes, en fait, ou les articles qu'on peut lire, ils disent que c'est la première cause de mortalité dans les maladies psychologiques, hein, effectivement. Mm-hmm. Donc, ça entraîne la mort. Voilà. Donc, c'est grave. Donc, il faut... L'idéal, c'est d'être pris suffisamment tôt. Plus c'est pris tôt et moins dans un parcours thérapeutique qui peut être très long et difficile. Si c'est pris juste à temps, ça peut aller très rapidement. Enfin, très rapidement, c'est un grand mot. Hein. Mais ça peut se faire avec plus de douceur.
Ouais, plus de douceur. Ouais.
Parce que là, pour moi, comme c'est de la confiance en soi, l'estime de soi, le qui je suis, et que c'est vraiment quelque chose de plus profond, si on peut avoir du temps et de la douceur, c'est quand même mieux. Mmh. Avoir un peu de temps et un peu de douceur pour régler un peu les différents... Moi, j'ai jamais été en danger, par exemple, en danger physique, en danger de mort. Mmh. Donc, j'ai pu prendre mon temps pour me dire qu'est-ce qui se passe. Et petit à petit, en fait, voilà, devant mon placard, je me disais, ah, là, non, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, je pouvais faire cet exercice-là. J'ai pu détourner, en fait, ce que moi, j'avais mis en place pour pouvoir survivre à un moment donné. Mmh. C'était dans la nourriture. Mais si on est dans l'urgence... Ça va être beaucoup moins doux. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre des sondes.
Oui, il y a un moment, ça se médicalise, en fait.
Voilà, il y a un moment, ça se médicalise, et là, c'est vital. Enfin, je trouve que la douceur est importante dans cette particularité, dans cette souffrance-là. Mais n'empêche qu'on a beau y mettre beaucoup de douceur, mettre une sonde, c'est quand même pas très agréable. Enfin, c'est pas doux, quoi. Enfin, même si les médecins, les personnes qui sont encadrants, les soignants, le font avec le plus de douceur possible, ça reste quelque chose d'agressif pour la personne. Pour pas arriver à ça, c'est bien sûr d'être pris à temps. Et c'est pour ça que l'association est beaucoup dans la prévention. Ouais, plus on est tôt, plus on percute, plus on se rend compte qu'il y a quelque chose, on va aller voir quelqu'un et ça va pouvoir se décanter avant d'aller jusqu'à quelque chose de très dramatique. Hein, ouais, et ouais. Où l'engagement, enfin, où effectivement le diagnostic vital est engagé.
D'accord.
Et ça, c'est grave.
Moi,
Manuela est donc bénévole pour l'association Solidarité Anorexie Boulimie d'Ille-et-Vilaine. Sur le mode des associations communautaires, la méthode privilégiée est celle du partage d'expériences entre pairs, notamment sous la forme de groupes de parole. Lieu d'échange et d'informations sur les troubles du comportement alimentaire, les groupes de parole peuvent constituer une alternative aux conceptions médicalisées de l'anorexie et de la boulimie. Les groupes permettent à chacun de trouver des moyens propres d'agir sur leurs comportements alimentaires et, dans l'idéal, avant qu'ils ne deviennent incontrôlables.
Donc Bruno a créé l'association en 2003. Il a eu une fille anorexique et donc il habitait sur Quimper à ce moment-là. Il l'a beaucoup soutenue pendant plusieurs mois et elle est malheureusement décédée en mars 2003, donc dans un hôpital psychiatrique, donc toute seule. Et là, il s'est retourné en disant je peux pas, enfin, il faut que j'amène à d'autres parents qui sont comme moi dans cette difficulté, dans cette galère avec un enfant qui souffre comme ça, autant que ça. Il faut absolument que je trouve une solution pour pouvoir échanger avec ces parents-là. Donc, il a mis une annonce dans l'Ouest-France. Tout simplement sur Quimper en disant voilà, il a commencé des groupes de parole comme ça. Il a eu des réponses et l'association est née à Quimper en fait, donc en 2003. Et après, il a développé à Rennes, c'est arrivé en 2007.
D'accord, ouais, donc il y a eu un petit laps de temps.
Voilà, mais c'est vraiment suite à cette grande solitude en tant que parent. Et il disait, j'aurais aimé avoir des gens qui me parlent de cette maladie, qui me parlent de l'anorexie, qui me disent, voilà, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que je peux faire pour ma fille. Je sais qu'il a vraiment voulu se tourner sur le côté expérience de personnes qui pouvaient être comme lui, des parents comme lui qui étaient dans cette souffrance, dans cette impuissance.
D'accord.
Parce qu'on se sent vraiment impuissant face à un enfant qui est effectivement en souffrance. Et aussi le côté solidaire. Bruno de Beaurepaire est vraiment, vraiment... Enfin, j'aime beaucoup ce côté-là avec lui, c'est le côté solidaire. C'est-à-dire que dans une galère, on n'est pas seul. Et, et justement, on est tous des êtres humains et on peut tous s'aider à un moment donné. Et il a vraiment actionné sur ce côté solidaire. On est tous dans le même bateau, en fait. Et pour avancer, c'est plutôt se donner la main entre nous.
Est-ce que vous pourriez peut-être nous éclairer sur les différentes actions que vous menez grâce à l'association, la façon dont ça fonctionne aussi?
Oui, donc en fait, sur Rennes, on se réunit tous les premiers samedis de chaque mois, donc de 14h30 à 16h30, c'est à l'Hôtel Dieu. C'est ouvert à toute personne qui souhaite venir parler, qui se sent concernée par l'anorexie, la boulimie, enfin les troubles du comportement alimentaire, que ce soit la personne concernée elle-même, que ce soit les parents, la famille, parfois on a vu des amis, des conjoints venir prendre de l'info. Parfois, c'est juste venir prendre de l'info, écouter. Ils ont un doute, ils disent, il y a un truc qui se passe, et ils viennent à l'assaut pour prendre des renseignements. Donc nous, on est là pour écouter, on est là pour donner de l'info, on est là pour donner aussi, on a toute une feuille avec des coordonnées de professionnels qui sont sur Rennes. Et surtout, ce qu'ils apprécient beaucoup dans ce groupe de parole qui a lieu donc, tous les premiers samedis de chaque mois, c'est d'entendre la parole de l'autre qui fait résonance. Et ça fait écho et du coup, ils se disent, alors déjà, je suis pas seule. Et ce que je ressens, c'est ok, je suis pas tout seul, je suis pas à moitié dingue. C'est bon, il y a des choses qui se passent, mais je suis pas tout seul dans ce truc-là. Donc ça fait résonance. Et donc chacun avance, chacun est sur son chemin. On voit bien, ils ont des chemins différents dans les groupes de parole. Et puis surtout, il y a donc des gens qui souffrent d'anorexie, d'autres boulimie, d'autres sont des parents, des conjoints. Donc c'est super riche d'échanges. Et on a remarqué dans ces groupes aussi que parfois, un parent entend mieux la parole d'un autre enfant que son propre enfant. Parce qu'il y a l'émotionnel quand c'est son propre enfant, ça impacte énormément. Quand c'est un autre enfant qui dit des choses, il pose des questions en fait. Mais quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Et comment vous vous sentez? Comment vous êtes? Et il y a des échanges qui se font. Et ils repartent à la maison avec une info, un autre regard en fait sur leur enfant, qui lui est en souffrance et avec qui ils ne peuvent pas toujours communiquer aussi facilement.
Alors là, on parle d'anorexie, de boulimie. C'est des notions qui sont assez complexes à aborder, puisqu'elles mettent en jeu pas mal de choses. Mmh. Notamment, on pense tout de suite à la question du corps dans nos sociétés contemporaines, mmh. avec des canons de beauté à respecter. Comment pourrait-on peut-être déjà commencer par définir l'anorexie et la boulimie? On imagine qu'il y a peut-être des normes médicales qui permettent un peu de jauger si les comportements sont normaux ou anormaux, bien que ce soit critiquable.
Alors, bah, du coup, moi, je suis pas médecin, donc c'est des choses auxquelles je peux pas vous répondre par rapport à l'IMC. Je sais pas à quel moment, effectivement, un médecin peut dire que c'est l'anorexie ou la boulimie. Nous, à l'association, on va plus être sur le côté du comportement. Parce qu'on s'est rendu compte aussi à l'association qu'il y avait des jeunes filles qui venaient en disant moi, j'ai toujours maintenu mon poids parce que j'ai un travail et que c'est peut-être la seule chose aujourd'hui qui me raccroche. Donc, pour tenir debout, je maintiens un minimum. Par contre, j'ai la souffrance qui est là. Enfin, j'ai exactement la même problématique qu'une jeune fille qui va être avec une IMC très très basse et qui va être hospitalisée. Et elles sont dans ce même carcan, en fait. Donc là, moi, je ne peux pas dire à partir de quel moment un médecin décide que c'est une anorexie, c'est une boulimie. Ce que je vois, moi, c'est plutôt les comportements en fait, qui sont à l'identique pour beaucoup les comportements, en fait, des peurs, le lien social qui est compliqué. Il y a des choses comme ça, en fait, et le rapport à la nourriture qui est très, très compliqué. C'est vrai que l'anorexie, alors il y a différentes sortes d'anorexie. Il y a effectivement la personne qui va complètement arrêter de se nourrir. Enfin, c'est vraiment restriction totale, et qui va donc chuter complètement au niveau du poids. Il y a, je dis la jeune fille parce que de manière générale, c'est quand même plus les jeunes filles que les garçons. C'est un sur 10 pour les garçons. Ça peut être aussi je mange et je me fais vomir. Mmh. Voilà, donc ça c'est le côté anorexie, boulimie. Enfin, il y a un mélange en fait, c'est je mange et en même temps je me fais vomir parce que je ne veux pas prendre de poids. Et puis il y a la boulimie où là effectivement je mange, mais parfois aussi je me fais vomir. Enfin, il y a le côté vomi, enfin je me fais vomir ou pas. Il y a restriction complète ou alors je mange et je me fais vomir. Et il y a aussi après plein de particularités, il y a celles qui vont pas se faire vomir mais qui vont manger sans aucune graisse, sans aucune. Enfin, c'est du light de chez light, quoi. C'est pas restriction, mais c'est peser. Enfin, on va peser tout ce qu'on mange, on va faire attention. Enfin, en niveau diététique, il y a une connaissance exceptionnelle sur les aliments, quoi.
Ah bon?
Combien de kilocalories, combien de. Voilà. Donc, ça, il y a une connaissance par rapport à ça. Une vraiment très forte connaissance. Si je prends tel aliment, faut pas que je prenne ça. Enfin, ça jongle à longueur de journée. Dans la boulimie, par exemple, même l'anorexie, qui vont se faire effectivement vomir, il y a le côté je vais manger n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Et il faut que ça rentre. Mmh. Donc c'est du n'importe quoi. Et après, il y a alors ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important à souligner. Il y a la honte. Il y a une honte derrière d'avoir mangé, d'avoir mal mangé ou d'avoir mangé. Parce qu'en plus, il y a une façon de manger qui est assez j'engloutis, donc il n'y a pas la notion de plaisir. Il y a aussi souvent le mot sale qui vient, la honte. Je me sens sale et j'ai honte. Du coup, c'est je vomis, mais c'est aussi je suis super mal, quoi. Enfin, la personne qui va garder, par contre, elle est super mal, quoi. Enfin, et après, elle peut être en restriction pendant plusieurs repas. Ce qui revient assez souvent au niveau du comportement et du mal-être, ça va être je suis qui, enfin la confiance en soi, enfin, c'est voilà le côté effectivement je sais pas qui je suis, enfin j'ai du mal, voilà. On observe que on peut basculer dans l'anorexie aux alentours de 12 ans, donc effectivement le corps qui se forme, enfin 12-13 ans pour les jeunes filles, donc voilà, c'est oula, je deviens femme, enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là.
D'accord.
Et puis il y a 19 ans, l'âge adulte, où là, il faut que je quitte le nid, il faut que je me lance, il faut que je m'assume. Et là, c'est pareil, c'est un passage qui est compliqué. Donc, à ces deux moments-là, en fait, souvent, il peut y avoir... alors, c'est pas du général, attention, on est bien d'accord. Bien sûr. Mais à ces deux moments-là, il peut y avoir des choses qui se passent parce que, voilà, il y a le corps qui se développe. Et à 19 ans, c'est « je dois partir et m'assumer, être adulte ». Comme on ne maîtrise pas son corps qui grandit à l'adolescence, on se dit, ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. L'âge adulte, on doit partir et c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On a très peur de l'avenir, très peur de ce qui va se passer, très peur de... Voilà. Parfois, certains disent que c'est une façon de maîtriser quelque chose. Voilà, comme c'est en vrac un peu à l'intérieur de soi, dans la tête, et on ne sait pas trop où on va, on va peut-être au moins maîtriser son corps. Il y a ce côté maîtrise. Parce qu'il y a une grande problématique aussi de lâcher prise.
Oui.
Il y a la relation à l'autre. Mmh. Être en relation avec l'autre, c'est compliqué. Ils se sentent beaucoup... le regard de l'autre est très important. Donc du coup, comme le regard de l'autre est un peu déformé, je veux dire ça en fait, c'est-à-dire que le regard sur soi est déformé et le regard de l'autre sur soi est également déformé.
On adopte la perspective de l'autre sur soi-même,
voilà.
En fait.
D'accord. Exactement. Et donc, du coup, l'autre fait peur parce que son regard est frais. Et d'ailleurs, il y a une jeune fille qui me disait l'autre jour qu'elle mangeait à plusieurs, en fait, donc avec cette même effectivement, particularité que trouble du comportement alimentaire. Et elle voyait, en fait, les comportements un peu bizarres des copines qui étaient en face. Et c'est là que ça lui a fait... remarquer qu'elle aussi avait des comportements mais qu'elle n'avait pas vu auparavant en fait. C'est quelque D'accord. chose qui se fait machinalement et effectivement c'est le regard de l'autre qui dit
il se passe quelque chose là.
Ouais voilà, ouais, c'est bizarre, tu coupes. Mais autour d'un repas, les gens, enfin moi je trouve en tous les cas, c'est beaucoup autour de votre assiette, enfin ils regardent beaucoup votre assiette quand vous êtes à table avec des amis, si vous mangez pas, si vous n'êtes pas faim, il faut manger un peu plus, et que je te resserre, il y a quelque chose d'important autour d'une table, il y a des choses qui se passent au niveau de la société, autour d'une table, c'est du partage, c'est du plaisir, c'est, voilà. Et quand on est avec un trouble du comportement alimentaire, eh ben, être autour de la table, c'est pas évident à gérer.
C'est une épreuve,
ouais. C'est une épreuve. Mm-mm. Donc parfois, comme on se sent... Alors en plus, si on a osé nous dire qu'on mangeait un peu bizarre, qu'on avait fait des petits tas à voir, qu'on n'avait pas mangé grand-chose, qu'on mangeait pas grand-chose, qu'on était difficile, voilà. Et ben après, on se dit, bah, oui, effectivement, je suis pas comme les autres. Effectivement, je mange pas comme tout le monde. J'ai pas la même façon de manger. On s'exclut un peu. Enfin, avec le regard de l'autre, voilà. Avec le regard de l'autre, on se dit bon, alors ok. C'est quelque chose. Du coup, on va pas être à l'aise. Donc, on peut s'exclure en se disant ben ok, super. Et après, de manger en face de quelqu'un, c'est très compliqué. Mais en plus d'être en relation avec l'autre, c'est souvent autour d'un verre, autour d'une table. Voilà. Voilà, enfin, ouais. Je pense à des jeunes qui vont se retrouver. Voilà. Ben. Du coup, c'est ben on s'exclut un petit peu en disant bon, de toute façon, je vais encore me faire remarquer ou même sans se faire remarquer, c'est est-ce que vraiment je fais partie de ces gens-là? Enfin, est-ce que j'arrive pas à m'intégrer? Parce que du coup, là, l'assiette, c'est juste quelque chose que l'on voit. Donc c'est visible, on n'est pas comme les autres au niveau de l'assiette. Donc peut-être qu'on n'est pas non plus comme les autres. Voilà, il y a ce côté, en fait, je me sens un peu différent des autres. Il y a des stratégies après, parce que les stratégies, c'est connu. On trouve des stratégies pour pouvoir faire des choses. Bah, moi, je vais plutôt parler de ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai plutôt pris un thé avec un goûter avec quelqu'un, plutôt qu'un dîner. Voilà, si je dois rencontrer quelqu'un, ça va plutôt être, on va se prendre un thé à 4 heures. Par exemple, plutôt qu'un dîner. Parce que le dîner, je sais que ça va être compliqué à gérer, alors qu'un thé avec un petit truc à grignoter, enfin voilà, ça passe.
Ouais.
J'aurais pas ce regard. Bon, c'est tout bête, mais c'est des choses comme ça.
Éviter de se retrouver dans des situations où ça peut être problématique,
plutôt,
en fait.
Voilà, ça va plutôt être ça, oui. D'éviter de se retrouver dans des situations... hop, voilà. Et moi, je suis très apérodinatoire, parce qu'au moins personne ne voit ce que vous mangez. C'est pas si l'aperçu.
Oui, c'est ça, on picore dans les assiettes,
voilà,
ça traîne.
Voilà, on ne sait pas qui a mangé quoi, et ça passe. Vous voyez, c'est des choses comme ça, en fait, où on va Ah voilà, moi je veux plus m'adapter comme ça pour essayer d'éviter d'avoir le regard. Où...
Est-ce qu'il y a des différences dans les pratiques comportementales des jeunes hommes et des jeunes filles? Est-ce qu'on note des différences? Est-ce que c'est la même façon de s'engager dans ces comportements alimentaires?
Les jeunes garçons, ça va plutôt être sur la masse musculaire. Ça va être de la musculation. Enfin, ça va plutôt être dans l'esprit, le corps fort. Le corps doit être fort, donc il doit avoir des muscles. Donc ça va plutôt être dans ces pratiques-là, en fait, pratiques de sport avec beaucoup d'intensité.
Une esthétique plutôt du corps.
Voilà, une esthétique du corps et surtout le muscle. Il faut du muscle, en fait. Donc il ne faut pas de graisse et du muscle. Donc d'accord. Ça va être du sport, ça va être donc de faire attention à ce que je mange et du sport. Lors d'une table ronde, on avait invité un jeune homme, en fait, qui a eu des troubles de comportement alimentaire. Et donc il expliquait voilà, que c'était le côté, il faisait du sport, en faisant attention à ce qu'il mangeait. Et lui, il habitait, il était étudiant, donc dans un appartement, et un matin, en fait, il se faisait vomir.
D'accord.
Quand il mangeait, voilà, il pouvait se faire vomir. Et un matin, en fait, il n'a pas pu se lever physiquement. Physiquement, il pouvait plus se lever, c'est-à-dire qu'il n'avait pas suffisamment d'alimentation. Enfin, il n'avait pas suffisamment nourri son corps. Il avait trop puisé dans ses réserves et un matin, il n'a pas pu se lever. Donc là, il s'est dit, là, il y a quelque chose qui, enfin, c'est stop quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc d'accord. C'est là où il a tiré la sonnette d'alarme. Il a été pris en charge et il expliquait que maintenant, par contre, il avait au niveau des dents, par exemple, il a des problèmes maintenant, problèmes de dos aussi. Enfin voilà, il y a des conséquences maintenant, même s'il a été récupéré entre guillemets à ce moment-là, parce que lui, il s'est dit stop, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, je ne peux pas me lever. Donc là, il a été soigné, il a été accompagné. Et aujourd'hui, il dit je paye encore effectivement les conséquences de cette étape-là qui a été compliquée pour lui.
D'accord.
Mais il a été beaucoup dans le sport et puis manger, ça vaut bien.
D'accord. C'était Enjeux de santé sur le 88.4 de Radio Campus Rennes. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr. Sachez que l'association Solidarité Anorexie Boulimie vous propose un temps d'échange dans l'amphi B2 du campus de Rennes 2, le mardi 25 novembre à 14h. Des témoignages, une projection et une discussion en compagnie de bénévoles et de professionnels de la santé sont au programme. La prochaine fois, Enjeux de santé couvrira la journée mondiale de lutte contre le sida.